Bonjour à tous. Si vous avez été attentifs à la lecture de Malachie, qu'on a fait en introduction, vous avez peut-être remarqué que le texte qu'on a devant nous ce matin aborde des sujets que plusieurs éviteraient volontiers d'aborder. Et pour cause, c'est des sujets qui touchent au plus privé de nos vies et aux aspects les plus profonds de nos cœurs. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour le constater, pour en prendre conscience, et je vous donne quelques exemples. Nombreux sont ceux aujourd'hui, en ce moment, qui souffrent dans leur mariage et considèrent leur union comme un échec. Il y a certains qui aspirent à se marier depuis des années, mais qui ne trouvent personne. Il y a des enfants de parents séparés qui vivent transportés entre deux mondes, une semaine ici, une semaine là, et qui n'arrivent finalement jamais à pardonner à leurs parents. Il y a certains mariages apparemment solides qui sont fragilisés par des maladies et des épreuves traversées. Beaucoup de chrétiens qui regrettent leur péché de jeunesse et souffrent aujourd'hui des conséquences de leur vie sans Dieu avant leur conversion. D'autres qui vivent dans la honte de l'immoralité, de la pornographie et l'esclavage qui en découle. Certains ont perdu un époux, une épouse, un proche, un enfant et sont en colère contre Dieu. Plusieurs sont engagés dans un mariage avec des incroyants et tiraillés intérieurement. D'autres se sentent prisonniers dans un mariage qu'ils n'ont pas choisi. Plusieurs jeunes croyants sont blessés, se sentent trahis par des modèles spirituels qui sont tombés ouvertement dans l'infidélité. Cette liste est déjà longue. Et on pourrait la continuer facilement. Dans toutes les églises, comme dans la nôtre, on rencontre ces sujets et ils nous touchent. Ça touche au concret de nos vies. Et ce matin, la parole de Dieu a un enseignement à nous donner sur ces sujets. Et je vous encourage à écouter humblement le Seigneur, même si peut-être vos premiers réflexes seraient de fermer vos oreilles pour éviter ces sujets douloureux, des sujets qui peuvent être sensibles dans vos cœurs. Si Dieu les aborde ici par l'intermédiaire de Malachie, c'est parce qu'ils sont centraux pour nos vies aujourd'hui encore. Et on va donc continuer cette étude du prophète Malachie. C'est une série que je fais lors de mes prédications ici. Je vous rappelle que c'est un prophète qui a écrit plus de 400 ans avant Jésus-Christ, au sein du peuple d'Israël. Et pourtant, ces écrits nous parlent encore à nous aujourd'hui, 2400 ans plus tard. Malachie était un homme qui s'adressait au peuple juif après l'exil à Babylone. Le peuple avait été envoyé à Babylone et les Juifs étaient revenus en terre promise par la grâce de Dieu pour reconstruire Jérusalem. Mais ils recommençaient à s'éloigner de Dieu en retombant dans les mêmes péchés qui avaient provoqué le jugement de Dieu. C'était un peuple qui finalement, comme notre pays aujourd'hui, avait connu la grâce de Dieu, la miséricorde, la bonté de Dieu, mais s'en détournait largement. Et ce qu'on a vu, c'est que par la voix de Malachie, Dieu s'adresse à son peuple pour avertir d'abord les dirigeants, les chefs du peuple, et en fait finalement aussi le peuple dans son ensemble, afin de mettre en lumière leur hypocrisie, leur orgueil et la dureté de leur cœur. Dieu avait rappelé son amour à son peuple, un amour inconditionnel qui faisait qu'il avait aimé, choisi ce peuple dans une action souveraine en faveur du peuple d'Israël. Et ensuite, il l'avertit en disant au peuple qu'il est en train, par ses attitudes, de se couper de la bénédiction de Dieu. Et ce matin, dans ce chapitre 2 de Malachie, versets 10 à 16, Dieu appelle le peuple à la fidélité. C'est un appel à la fidélité, et c'est le titre de ce message aussi, un appel à la fidélité. Dieu s'adresse maintenant en fait à tout le peuple en mettant en lumière l'incrédulité et l'infidélité qui est là dans leur cœur. Et ce matin, dans la prédication, on aura trois points. On va commencer par regarder ou comprendre l'infidélité du peuple. Deuxièmement, on va voir comment Malachie nous apprend à lutter contre l'infidélité. Et troisièmement, on essaiera de reconnaître notre infidélité. Donc l'infidélité du peuple, lutter contre l'infidélité et reconnaître notre infidélité. Premier point, l'infidélité du peuple. Et on va voir que c'est une infidélité en cascade, je l'ai appelé. Dans ce passage de Malachie 2, je vous invite à garder ouvert devant vous, parce qu'on va essayer de reprendre certains versets, Malachie 2, depuis le verset 10. Dans ce passage, Dieu reproche plusieurs péchés à son peuple, plusieurs péchés différents, si vous avez été attentifs. Et en fait, les reproches sont parfois tellement entremêlés les unes aux autres que ce n'est pas toujours facile ou simple de comprendre à quoi Dieu ou Malachie fait allusion dans chaque verset précisément. Mais regardez avec moi, il y a un premier reproche évident qui ressort des versets 14 à 16. C'est un reproche au sujet des divorces. Verset 14, « Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Malachie s'adresse dans ces versets au péché de ceux qui brisaient leur alliance, leur mariage, en rejetant leur femme ou leur mari et en s'en séparant volontairement. Et Malachie appelle ça, au verset 14, une trahison. Une trahison de l'alliance qui avait été conclue. Il y avait en fait au sein du peuple à l'époque une grande infidélité, un grand manque de fidélité qui faisait que l'alliance du mariage était prise à la légère. Mais en fait, ce n'est pas tout. Si on continue l'étude de ce passage, on voit en fait comment le péché agit. Et le péché agit en appelant un autre péché qui en appelle un autre. C'est ça qu'on appelle le péché en cascade. L'infidélité du peuple dans le cadre du mariage avec ses divorces causait un autre péché. Le fait de rompre leur mariage faisait que finalement, ou était causé par le fait que les Juifs se mariaient avec des femmes étrangères. Verset 11. Judas a trahi et une horreur a été commise en Israël. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est marié à la fille d'un dieu étranger. Ce qui est appelé dans ce verset 11 la fille d'un dieu étranger, ce sont les femmes des peuples étrangers alentour, les femmes qui servaient et adoraient des faux dieux, des idoles. Et les Juifs brisaient leur mariage avec leurs femmes pour aller s'unir avec des adorateurs d'idoles dans les nations alentour. Et ici aussi, le constat est sans appel. Trahison. Judas a trahi. L'infidélité entraîne l'infidélité. La répudiation dans le cadre du mariage mène à l'idolâtrie spirituelle. Et dans ce passage, ces péchés en cascade ne s'arrêtent pas là. Parce que malheureusement, le peuple a encore profané ce qui est consacré à l'Éternel. C'est le verset 11. Profaner ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Qu'est-ce que le peuple a profané? Il peut s'agir du temple, de l'autel à Dieu, ou de l'alliance qui avait été scellée entre Dieu et les Israélites. En fait, peut-être tout cela ensemble. Les commentateurs ne sont pas unanimes et tous ces exemples pratiquement se sont réalisés dans l'histoire du peuple d'Israël. Peut-être qu'ils ont péché en amenant leurs femmes païennes dans le sanctuaire du temple qui leur était interdit. Ou peut-être se sont-ils souillés en participant eux-mêmes à des cérémonies religieuses pour des faux dieux. Dans tous les cas, il s'agit de souiller l'adoration de Dieu en se détournant d'un culte qui soit entièrement consacré à lui. Il s'agit de l'infidélité dans l'adoration donnée à Dieu. Malachie adresse encore dans ce passage l'hypocrisie du peuple qui, malgré leur idolâtrie, malgré leur adoration souillée, venait couvrir l'autel de Dieu de larmes et apporter une offrande souillée. C'est le verset 12b et verset 13. Regardez avec moi la fin du verset 12. « Dieu retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Voici en second lieu ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers vos offrandes et qu'il n'agrée plus rien de vos mains. » Qu'est-ce qui se passait? Les Juifs se moquaient des lois de Dieu ouvertement en étant idolâtres, infidèles. Mais en même temps, ils venaient adorer Dieu dans le temple pour se donner bonne conscience. Alors pourquoi Dieu ne recevait-il pas favorablement leur adoration, leur sacrifice? À cause de leur immense hypocrisie. Parce que des lèvres, ils confessaient Dieu, mais dans leur vie pratique, ils s'en détournaient et s'en éloignaient. Toute cette infidélité du peuple, ces péchés en cascade, avaient pour conséquence finalement la division au sein du peuple. C'est ce qu'on voit au début du passage, verset 10, le constat de Malachie. « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères ?» Au lieu d'être un peuple uni dans la consécration, l'adoration à Dieu, l'adoration du seul vrai Dieu qui avait choisi ce peuple, qui l'avait béni, délivré, libéré, eh bien le peuple est plutôt dans la trahison et la désunion. Il en vient même à couvrir ses vêtements de violence, nous dit le verset 16. Pour cacher ses péchés, couvrir ses péchés, il couvre ses vêtements de violence. On a donc un passage devant nous où Malachie avertit son peuple de son péché, de son infidélité. Dieu les voit, Dieu voit tous ses péchés. Ces nombreuses fautes qu'il mentionne sont des péchés qui se nourrissent les uns les autres, qui s'entretiennent, se stimulent les uns les autres. En fait, ils sont tous la conséquence directe de l'infidélité à Dieu dans l'adoration. Voilà l'état du peuple juif auquel Malachie s'adresse. Et quel est le constat de Dieu dans ce passage? Le constat de Dieu, c'est haïssable. Il n'y a pas, Dieu n'y va pas avec le dos de la cuillère par la parole de Malachie. Ce n'est pas de la rigolade. Dieu ne prend pas à la légère ses infidélités. Verset 16, car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15, « Nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Vous agissez comme des insensés. Vous avez perdu la raison, dit Dieu. » Et ces constats au sujet de Dieu sont des avertissements pour nous aussi aujourd'hui. Prendre les lois de Dieu, sa parole à la légère, c'est une folie. Se moquer de Dieu en vivant dans l'hypocrisie, c'est une trahison. C'est ce que Dieu en dit. Cultiver l'infidélité et l'idolâtrie mène droit à la ruine éternelle. Verset 12, l'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Ce verbe « retrancher » qui est utilisé ici, c'est un verbe fort qui est utilisé à nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, Exode et Lévitique notamment, pour parler d'une exclusion définitive du peuple de l'Alliance. Il s'agit de perdre le contact avec le Dieu de l'univers, d'être rejeté par lui, d'être exclu de la communion dans son peuple. Et Dieu dit ici, voilà ce qui attend l'infidèle. C'est sa fin avec certitude. L'infidélité n'est pas à prendre à la légère. Le constat de Dieu est terrible. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'infidélité est encore un problème? Qu'en pensez-vous? En Suisse, l'Église vit dans l'infidélité en acceptant et bénissant ce que Dieu a en horreur. Homosexualité, avortement, idolâtrie. En Suisse, la moitié des couples mariés se divorcent. Et que dire des couples non mariés? Mais on a encore la chance d'être au bénéfice du christianisme réformé qui a marqué notre pays. Parce que ailleurs, en Russie, en Chine, à Cuba, c'est environ 3 mariages sur 4 qui finissent par un divorce. L'infidélité nous guette tous dans le domaine du mariage et de la sexualité, mais aussi, surtout spirituellement. Parce que les idéologies modernes, les idoles de nos civilisations viennent détourner notre adoration et notre crainte de Dieu. Nous sommes terriblement infidèles. Et c'est pour ça que je suis convaincu que cet appel à la fidélité lancé par Malachie vous parle à vous aussi ce matin au fond de votre cœur comme il le fait pour moi. C'est ce qui va nous mener au deuxième point, lutter contre l'infidélité. L'infidélité, c'est donc un péché grave, terriblement grave, qui éloigne et qui sépare de Dieu. C'est le constat de Malachie qui est clair, sans appel. Mais que faire? Comment lutter? Comment réagir? Comment s'en défaire? C'est ce qu'on va voir dans ce deuxième point, avec les conseils donnés par Malachie. Et comment appliquer ces conseils à notre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez été attentif à l'exhortation de Malachie? Elle est répétée 2 fois dans ces versets, au verset 15 puis au verset 16. Prenez donc garde en votre esprit. Prenez garde dans votre esprit. Malachie appelle à la vigilance, à la prudence, dans notre être intérieur, dans notre esprit, dans nos cœurs. Et puis il ajoute 2 impératifs différents, verset 16, « Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Et puis verset 16, « Vous ne serez pas des traîtres. » En fait, le message de Dieu à son peuple par Malachie, c'est le suivant, « Attention à votre cœur. » C'est de votre cœur, de votre être intérieur, que viennent les pensées mauvaises, que viennent les tentations qui vous conduisent à mal agir. Attention à votre cœur. C'est de lui que viennent vos mauvaises pensées et vos tentations. Et en cela, Malachie rejoint le message du Nouveau Testament. On lit dans Jacques, au chapitre 4, notamment Jacques 4, verset 1, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. D'où viennent les luttes? Les querelles? C'est des passions qui combattent dans nos membres. Comment donc lutter contre l'infidélité? Eh bien, prenez garde en votre esprit. Et je vous propose 2 domaines d'application qu'on va creuser un petit peu plus ensemble ce matin. J'ai choisi 2 domaines. D'abord, prendre soin de nos mariages et puis ensuite choisir un conjoint. C'est ce qu'on va faire ensemble dans ce deuxième point, voir comment prendre soin de nos mariages et choisir un conjoint en tenant compte de ces avertissements de Malachie pour nous ce matin. Un petit exercice d'imagination pour commencer. Imaginez la scène suivante. Un jeune homme et une jeune femme se tiennent devant une grande assemblée dans leurs plus beaux vêtements. Un pasteur prie pour eux et les bénit. Il bénit leur union. Et puis il s'adresse aux époux Et il leur dit, vous êtes mari et femme, unis par Dieu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Car Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? C'est des belles formulations encore courantes aujourd'hui dans nos mariages. Et pourtant, un mariage qui dure est bien loin d'être la norme autour de nous. Mais Dieu nous rappelle ce matin que pour lui, un mariage qui dure est la seule norme, la seule perspective divine. Pour Dieu, l'union entre la femme et l'homme est faite pour durer jusqu'à ce que la mort les sépare. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. C'était verset 14. Et puis verset 15, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Briser l'alliance du mariage par l'infidélité, l'adultère ou le divorce est une trahison. Et Dieu qui en est le témoin, le juge comme haïssable et détestable aujourd'hui encore. Et ce constat devrait nous mener à veiller sur nos mariages et à le faire en commençant par veiller sur notre esprit, sur notre cœur, sur nos pensées. Contrairement à ce que veulent nous faire croire les belles histoires d'amour qu'on entend autour de nous, un mariage ne dure pas simplement parce que les deux époux étaient compatibles ou parce qu'il y a eu un vrai flash, un coup de foudre ou des papillons dans le ventre. Ce n'est pas ça qui rend un mariage durable. Un mariage dure dans le temps parce qu'il est construit sur une base solide et entretenu au quotidien. Et on a un conseil dans ce texte pour la base d'un mariage solide. Qu'est-ce qu'il faut pour un mariage solide? Il faut une relation d'amitié solide. C'est ce qui est mis en évidence par le vocabulaire que Malachi utilise au verset 14. Il parle d'une amitié profonde en disant, où est-ce que j'en suis? En disant, bien qu'elle soit ta compagne. Elle soit ta compagne, cette femme de ta jeunesse. C'est un terme qui désigne une relation intime, sincère, profonde. Comment donc pouvons-nous garder notre esprit concrètement dans nos vies de couple aujourd'hui? Je vous donne quelques réflexions sous la forme de questions à vous poser. Est-ce que nous cultivons des pensées honorables au sujet de notre conjoint, de notre conjointe, de notre femme? Est-ce qu'on prie sincèrement, régulièrement pour elle ou pour lui? Mettons-nous en couple un point d'honneur à prendre du temps pour discuter, approfondir notre relation. Est-ce que c'est là notre priorité, sérieusement? Luttons-nous sérieusement contre les désirs et les attirances adultères? Comment réagissons-nous lorsque nos regards tombent sur le poster de femmes dévêtues au vestiaire de sport ou dans l'atelier au travail? Tuons-nous toute racine d'amertume, de colère, de jalousie qui naîtrait dans nos cœurs à l'égard de notre conjoint? Est-ce que nous mettons à mort ces pensées? Comment acceptons-nous les regards flatteurs et les paroles séductrices de tel ou tel étranger sans lutter contre ce plaisir pécheur? Chérissons-nous dans nos couples la communication, la repentance, le pardon? Vous savez, on raconte au sujet de Martin Luther, le réformateur, Martin Luther et sa femme, que leur couple est passé par des moments difficiles. Catherine, sa femme, était au foyer après de rudes journées à s'occuper des enfants, des animaux domestiques et des tâches ménagères. Catherine aspirait juste à retrouver son mari pour un temps de discussion profond. Martin, lui, rentrait après avoir prêché 4 fois, discuté avec des étudiants et enseigné en privé. Il souhaitait que s'asseoir dans un fauteuil, prendre un livre ou un journal et jouir d'un peu de tranquillité. Vous pouvez imaginer le conflit et la frustration, n'est-ce pas? Et Martin Luther écrivait plus tard à ce sujet: « Tout est patience. Je dois faire preuve de patience envers le pape, envers les hérétiques, envers ma famille et aussi envers Catherine. » Est-ce que ça vous semble familier, ce genre de frustration? Pour pas donner accès au diable dans ces situations, dans ces petites frustrations du quotidien, on doit apprendre à se comprendre et à s'entraider. C'est la clé dans le couple. Ça passe par l'échange, ça passe par le partage, par la communication et la prière. Ça ne peut pas aller sans ces éléments. Sans l'échange, sans la prière, la communication et le partage. Et bien souvent, lorsque un chrétien perd pied spirituellement, c'est parce qu'il a déjà failli dans le domaine de son mariage. Et lorsqu'un chrétien viole le commandement de Dieu au sujet du mariage, il est prêt de faire naufrage dans sa relation avec Dieu. C'est ce qu'on voit avec ces péchés en cascade auxquels Malachie fait référence. Alors rappelons-nous sérieusement de cet avertissement capital dans nos couples: que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Dieu aime, Dieu chérit le mariage et nous l'a donné comme un bienfait, comme une bénédiction. Et c'est plus qu'une bénédiction pour nous, pour le couple. En fait, un mariage fidèle, un mariage solide, c'est épanouissant pour le mari et pour la femme. Pour les enfants, c'est le meilleur cadre qu'ils peuvent avoir. C'est le meilleur cadre pour se développer, grandir. Et un mariage solide est le meilleur cadre pour la sanctification mutuelle, pour exercer ses dons. Mais des mariages solides sont aussi et surtout une bénédiction de Dieu dans l'Église et dans la société. Et pour ces raisons, Dieu veille avec jalousie sur nos mariages. Dieu veille avec jalousie sur notre fidélité dans notre mariage. Et nous devrions faire de même. Deuxième axe d'application, choisir un conjoint. On va réfléchir à ce que ces avertissements de Malachie ont à nous enseigner quant au choix d'une femme, d'un mari. Il y a plusieurs célibataires parmi nous, et pour vous les enfants, ils sont où les enfants? Pour vous les enfants, il y a un jour où vous devrez choisir un conjoint, réfléchir au choix d'un mari ou d'une femme. Dans ce passage de Malachie, Dieu s'oppose catégoriquement, fortement, au mariage des Juifs avec des femmes étrangères. Il reprend les Israélites à cause du choix de leurs épouses, à cause de leur mariage avec des femmes qui sont d'autres nations, d'autres pays. Quelle est la raison de ce reproche? On a lu un texte dans l'Exode en introduction, on voit aussi en Deutéronome 7, verset 3, l'ordre suivant, la loi suivante donnée par Dieu: « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, les peuples alentours, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Il y avait un ordre de Dieu. Est-ce que Dieu est raciste? Est-ce qu'il en va de la pureté du sang juif qui ne devait pas être mélangé à d'autres sangs? Est-ce que les mariages interculturels sont vraiment une horreur pour Dieu? Quelle est la raison de cet avertissement, sérieusement? En fait, il suffit de lire le verset suivant, Deutéronome 7, verset 4, « car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Ou bien comme on l'a lu en Exode 34, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. La préoccupation de Dieu dans cet avertissement, c'est le bien spirituel des Israélites. C'est la consécration entière et la fidélité. Les femmes étrangères alentour pouvaient être certes très attirantes pour les Israélites. Certainement physiquement différentes, originales, plaisantes. Sûrement vêtues de manière aguichante, frivoles et séductrices dans leurs attitudes. Les Israélites pouvaient avoir toutes sortes de bonnes raisons pour vouloir les épouser. Mais le vrai problème, c'était que ces femmes ne craignaient pas Dieu. Leur vie était dirigée par d'autres principes que ceux du seul vrai Dieu, par d'autres croyances, par d'autres convictions. Et le danger pour les Juifs, c'était l'égarement spirituel, lié au fait de s'unir avec des femmes étrangères. Et c'est exactement cet égarement spirituel dans lequel le peuple d'Israël s'était empêtré du temps de Malachie. Ce même principe, ce souci de Dieu pour la consécration de ses enfants, demeure aujourd'hui encore. Comme nous le dit Paul dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier comme elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Un chrétien est libre de marier qui il veut, de toute nation, de toute race, de toute classe sociale. Mais son épouse doit être également chrétienne. Cette règle donnée par Dieu, elle est claire. Elle est là pas pour nous priver arbitrairement de bonnes choses, mais elle est là pour notre bien, pour nous garder dans la fidélité. On ne peut pas être à moitié pour Dieu. La vie chrétienne demande de la part de Dieu un engagement entier, une consécration totale. Et Dieu sait pertinemment qu'une telle consécration est impossible dans un couple mixte. Le danger, la tentation pour le croyant sont beaucoup trop forts de se laisser tirailler par l'époux non-croyant. Alors si vous êtes célibataire et devant le choix d'un conjoint, prenez cet avertissement au sérieux pour vous-même. Pourquoi est-ce que c'est si grave pour vous d'envisager de s'engager dans le mariage avec un non-croyant? Quel est vraiment le problème? En fait, c'est refuser à Dieu la seigneurie qu'il mérite sur tous les aspects de votre vie, sans exception, même sur vos sentiments. C'est croire aussi que Dieu, finalement, ne cherche pas vraiment votre bien. C'est minimiser une désobéissance à un commandement de Dieu. Et c'est une porte ouverte à l'incrédulité qui entraînera finalement d'autres péchés, d'autres luttes. Alors est-ce que vraiment Dieu a quelque chose à dire sur cette relation que tu entames avec ton collègue non-croyant ou avec cette jeune fille incroyante? Oui, Dieu a un avis sur la question. Et Dieu aime ses enfants avec une telle jalousie qu'il déteste les voir s'éloigner de lui et se compromettre avec des idolâtres. Dieu a son mot à dire, même sur les sentiments de ton cœur. Alors ne laissez jamais vos sentiments s'enflammer envers un non-croyant, mais acceptez la seigneurie de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Acceptez que Dieu est Seigneur, même dans le secret de votre cœur. Est-ce que vous avez déjà entendu plaisanter au sujet des vieilles filles dans l'Église. Elles sont souvent la cible de commentaires moqueurs. Mais réellement, beaucoup de ces femmes étaient jeunes, pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de ces jeunes filles chrétiennes, entre 18 et 25 ans, ont perdu leur amoureux chrétien dans les tranchées de la guerre. Et après la fin de la guerre, il ne restait plus d'hommes chrétiens à épouser. Il n'y en avait plus. Quel était leur choix alors? Et plutôt que de se compromettre dans leur engagement envers Christ et d'épouser un non-croyant, elles sont restées fidèles au Seigneur toute leur vie. Quelle consécration, quel exemple de consécration pour celles qu'on pourrait appeler des héroïnes spirituelles. Et le Seigneur est conscient de ce genre de sacrifice par amour pour lui, pour le suivre. Il est conscient des larmes, du chagrin, et il ne laissera pas une telle consécration sans récompense. Êtes-vous prêts, les jeunes d'aujourd'hui, êtes-vous prêts à porter la croix pour le Christ, vous aussi aujourd'hui? Ou bien est-ce que le prix à payer dans ce domaine spécifiquement vous semble trop cher? Vous savez, pour les jeunes croyants aujourd'hui, ce test du choix d'un conjoint est souvent un test crucial. Suivre Christ peut-être causer des moqueries, des souffrances, quelques sacrifices et peines. Mais le choix de la fidélité à Dieu dans ce domaine particulier est déterminant pour toute la vie. Il y a des moments dans la vie chrétienne où il faut tracer une limite qui coûte vraiment, un vrai sacrifice. Il y a des choix que nous devons faire pour honorer Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons être prêts à laisser à Dieu les clés de notre vie, même dans le domaine des sentiments et du mariage. Chers jeunes, vous ne savez pas mieux que Dieu quel conjoint est le bon pour vous. Vous ne savez pas mieux que Dieu qui est le bon conjoint pour vous. Reconnaissez devant Dieu qu'il est le maître de votre vie. Demandez-lui de vous conduire au conjoint de son choix parmi les chrétiens. On a donc vu ensemble deux domaines dans lesquels nous avons à veiller sur notre esprit pour ne pas suivre l'exemple des Israélites et leur péché en cascade dans l'infidélité. Ces deux domaines, c'était prendre soin de nos mariages et choisir nos conjoints. Ça nous mène au dernier point que j'ai intitulé « Reconnaître notre infidélité ». Parce qu'un examen honnête de notre cœur ne peut que nous conduire à reconnaître nous aussi notre infidélité, nos manquements, nos péchés. On est très semblable aux Israélites du temps de Malachie, n'est-ce pas? En fait, ces exhortations du prophète pourraient nous décourager, nous sembler comme une montagne infranchissable, comme une réalité inatteignable. Et ce constat doit nous conduire à Christ. C'est lui qui a été parfaitement fidèle à notre place. Dieu lui-même dit à ses enfants, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » C'est 2 Timothée 2, verset 13. Dieu demeure fidèle, sans faille, à son alliance. Il demeure fidèle à ses promesses. Et face à notre constat d'échec, nous sommes appelés à fixer les yeux sur sa fidélité parfaite, même lorsque nous défaillons ou ratons la cible. Et je crois que cette exhortation est importante, spécialement pour nous en tant qu'Église. Parce que l'Église, nous ici, l'Église au sens large, ce n'est pas un rassemblement d'hommes et femmes parfaits. Ce n'est pas un rassemblement d'hommes et femmes fidèles, irréprochables. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est le lieu où ceux qui reconnaissent leur infidélité se trouvent accueillis où ceux qui sont conscients de leur infidélité sont aimés et pardonnés. Ça, c'est l'Église. Et notre Église doit être une famille prête à accueillir dans l'amour et dans le pardon. Prête à accueillir tous les infidèles, quels qu'ils soient, qui viennent repentants et qui viennent en reconnaissant leur besoin d'être lavés, purifiés, pardonnés. Et en tant que frères et sœurs dans la foi, réunis ici en église locale, nous devrions pouvoir nous encourager, nous relever mutuellement sur le chemin de la fidélité et de la vraie consécration à Dieu. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères ? Voyez, cette unité en Dieu est réelle pour nous aussi, dans l'Église du Nouveau Testament. Alors que nous puissions la chérir et fuir tout ce qui y nuit, ne pas nous trahir les uns les autres, ne pas nous juger les uns les autres, mais vivre dans l'honnêteté réciproque. L'avertissement de ce matin est solennel pour nous. Ne luttons pas les uns contre les autres, mais ensemble contre l'esprit du monde, ensemble contre les mensonges du malin. Et d'autant plus en tenant compte de la situation du monde dans lequel Dieu nous a placés, notre monde ici en Occident, parce que nos civilisations autour de nous font tous leurs efforts pour détruire le mariage. Il n'est pas secret que les pouvoirs dirigeants seraient heureux de voir la cellule familiale et le couple définitivement éradiqués. Alors on est appelé à vivre et défendre fermement l'alliance du mariage que Dieu nous a donnée. Il y a un homme qui a aimé son épouse au prix de sa vie. Il y a un homme qui a donné sa vie par amour pour son épouse. Cet homme, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est en lui que se trouve l'accomplissement parfait de nos mariages bien imparfaits. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La manière dont nous vivons la fidélité dans nos mariages devrait finalement refléter la fidélité parfaite de Dieu. L'amour de Christ pour l'Église, c'est ça notre inspiration, notre source de fidélité. Et si vous vous sentez ce matin accablé par votre infidélité, alors venez à Christ. Si votre mariage bat de l'aile, s'il est un fardeau pour vous, venez à Christ. Qui que vous soyez, quels que soient vos fautes et vos besoins, vos fardeaux, venez à Christ. Et vous trouverez réellement en lui le pardon et la paix. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle. On retombe sur la fidélité. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et je vais conclure. L'avertissement que Malachie nous donne ce matin ne peut pas nous laisser insensibles. Dieu retranchera de son peuple ceux qui se moquent de lui en vivant dans le péché et l'hypocrisie. Cet avertissement, c'est un appel plein de grâce, un appel à revenir à Dieu en prenant conscience de notre infidélité, à renouveler notre consécration pour lui envers lui. Rappelons-nous que la lutte contre cette infidélité commence dans nos esprits, dans nos cœurs. Ce n'est pas la faute aux circonstances ou aux autres. Dieu aime que ses enfants s'appliquent à cultiver et défendre une entière fidélité envers lui. Alors chérissons cette fidélité en veillant sur nos mariages, en veillant sur la pureté de nos cœurs et de notre adoration. Que Dieu nous fasse la grâce d'être appelés bons et fidèles serviteurs pour entrer dans la joie de son royaume. Amen.